François Landry, bonjour.
Bonjour.
Et merci de venir nous visiter un instant dans le studio de Radio Royan pour mettre en valeur un réseau pour le moins soupçonné, en tout cas aux yeux du grand public. On parle de réseau karstique, de spéléologie, puis aussi toutes vos compétences en matière d'aventure souterraine. Et c'est à cet effet que vous venez nous présenter un ouvrage. Alors, il n'est pas encore paru, mais c'est un petit peu une promotion avant l'impression finale de cette exploration que vous venez de mener avec, on peut citer aussi, un certain collectif qui vous entoure. Alors, vous faites partie du comité départemental spéléo de la Drôme, c'est bien cela ?
Exact, oui, du comité départemental spéléologie de la Drôme.
On vous connaît également par l'association
Les Gécos,
hein, sur oui. Saint-Laurent-en-Royan. Oui. On reparlera d'ailleurs de Saint-Laurent, la bibliothèque, hein, qui a oui. un lien assez oui. étroit avec toutes vos expérimentations en milieu souterrain. Aujourd'hui, c'est ce réseau qui mobilise toute notre attention. Et puis aussi, tout un collectif finalement, peut-être à vos côtés, qui a érigé, on peut dire, ce livre.
Oui. C'est tout un collectif, c'est-à-dire que c'est un interclub qui a participé à l'exploration de ce réseau. Alors, on va peut-être le nommer, il s'appelle le réseau des Chuas. Mmh. Donc ce réseau a été découvert par un interclub, donc des clubs du département de la Drôme, pratiquement tous les clubs du département de la Drôme, quelques clubs du département de l'Isère, ceux qui sont proches du Vercors, hein, puisqu'on parle bien sûr du Vercors, on parle du plateau de Fondurne. On a créé donc un interclub pour découvrir ce réseau qui aujourd'hui développe 42 kilomètres, et il nous a semblé bon, à l'issue de des dernières découvertes, de commencer à publier l'ensemble de nos découvertes. Et l'ouvrage donc a pris corps depuis un an et demi, deux ans, qu'on travaille, nous travaillons dessus, et donc il va sortir là bientôt au mois de mai 2019.
Bon, et c'est aussi une véritable passion pour la spéléologie, hein. On peut donner simplement un petit historique.
Alors, il faut comprendre que l'exploration de ce réseau, elle débute dans les années 60. 1960, oui, précisons, 1960. Quelques cavités sont découvertes sur le plateau de Fondurne, mais n'aboutissent pas, ne donnent pas, elles se terminent bien souvent sur une couche imperméable, enfin qui bloque la suite des explorations. Et puis, en 2002, deux membres du club du Cafrement, c'est René Lédet et Christian Lantem, vont découvrir dans le gouffre le Cialet des Chuas, enfin le Cialet 2 des Chuas d'ailleurs, vont découvrir une suite. Et cette suite est le début de l'aventure. Donc c'est ce que l'on raconte dans cet ouvrage, parce que de cette découverte va découler des kilomètres de découverte, des rivières, des collecteurs fossiles, enfin quand on dit des rivières, c'est des actifs, des collecteurs fossiles. D'autres entrées vont s'ajouter à ce réseau, c'est pour ça que maintenant on parle du réseau des Chuas, parce que d'une entrée, on va découvrir trois autres entrées, donc maintenant le réseau des Chuas développe 42 kilomètres. Il a une extension de la falaise de Quin, donc il faut bien comprendre qu'on va jusqu'aux falaises de Quin, jusqu'au col de la Chaux, soit 4 kilomètres, plus de 4 kilomètres d'extension, ce qui est extraordinaire pour ce réseau. Et donc, c'est cette grande aventure qu'on va raconter avec toutes ces péripéties. Alors, cet ouvrage, il est plutôt à tendance pour les spéléos, parce qu'on va présenter une douzaine de courses qu'on appelle des courses. C'est un petit peu des guides comme en montagne. Ouais. Donc nous, on va présenter 12 courses à travers ce réseau, dans les différentes entrées, bien sûr, des traversées, c'est-à-dire qu'on peut rentrer d'un côté et sortir de l'autre. On va présenter différentes courses. Mais surtout, on tient, après cette présentation, à indiquer l'historique. Comment nous en sommes arrivés là ? Quelle était la sensation des spéléos ? Pas souvent, on fait un petit compte-rendu quand on fait une sortie, et surtout quand on découvre de nouvelles galeries. C'est un peu lyrique, on part un peu dans tous les sens, donc on est très heureux, et certaines personnes l'ont couché sur le papier, et donc les cours seront agrémentés de ces histoires d'aventures, de découvertes, de sensations qui sont exceptionnelles et personnelles surtout, et d'une très grande intensité.
Alors la mobilisation pour aller beaucoup plus loin dans ce réseau, en 2002, une organisation nouvelle est née.
Alors, en 2002, le club a commencé ses découvertes seul. Il a commencé ses découvertes seul, mais les difficultés, parce que le réseau découvert par ce club était difficile, étroit, humide. C'est du ramping sur à peu près 600 mètres, donc vraiment très difficile. Ce réseau étant un peu difficile, les explorations ont marqué le pas. Et puis, à un moment donné, ils ont senti, le club a senti qu'il fallait associer d'autres clubs pour avoir des éléments nouveaux, des personnes un peu plus nouvelles dans le club, enfin dans l'exploration. Et petit à petit, l'interclub, ce qu'on a appelé l'interclub est né. Les expéditions étaient très longues, puisqu'on a des expéditions qui sont passées de 6-7 heures à 18 heures, la plupart, en moyenne. Donc 18 heures d'exploration pour pouvoir faire avancer le Schmilblick, comme on dit. Donc c'était un petit peu délicat. On a même installé des bivouacs. Donc il a fallu installer des bivouacs pour les explorations. Donc, la naissance d'un interclub, de trouver un groupe plus riche en personne, c'était évident, quoi. Ça découlait de soi. Il fallait absolument, et puis c'est un beau projet en plus, il fallait absolument qu'on soit tous ensemble pour le même objet, même principe, et puis c'est un bon résultat d'ailleurs.
Avec tout aussi la délicatesse de l'exploration, puisque quand on fait 4 km dans un sens, il faut compter 4 km dans l'autre, donc ça double un peu les aussi.
Oui, alors c'est ce qui fait aujourd'hui que les explorations sont difficiles. Ce qui fait aujourd'hui que les explorations sont longues, c'est parce que il faut aller chercher la suite probable de plus en plus loin. Mmh. Et bien sûr, il y a toujours un aller-retour. Il y a, par exemple, actuellement dans le réseau, en passant par l'entrée la plus proche du fin fond de la galerie, ce qui s'appelle la galerie des Nénuphars, qui est une galerie qui est en cours d'exploration. Sur cette galerie, il n'y a eu que 4 expéditions, ouais. Alors qu'elle est découverte depuis 3 ans. 4 expéditions, pourquoi ? Parce que là, il nous faut les meilleurs, il nous faut des gens courageux, parce que ça, c'est des explorations qui vont aller jusqu'à 24 heures, aller-retour. Donc, ça nécessite un engagement un petit peu physique, plutôt très physique. Donc voilà, c'est délicat, c'est des préparations. Faut préparer son expédition. Parfois, il faut dire non, la météo n'est pas bonne, on arrête l'expé. Donc il y a tous ces éléments qui rentrent en compte. Alors aujourd'hui, on espère trouver une entrée un peu plus près pour pouvoir raccourcir les délais d'exploration. Sinon, nous allons rentrer dans le système de bivouac. Le bivouac qui nous permet à ce moment-là de pousser plus loin nos découvertes.
Et là, c'est une équipe bien identifiée qui s'est fidélisée.
Oui, c'est toujours des gens de l'interclub. C'est pratiquement tous les mêmes. C'est-à-dire, on a quelques-uns, on a 4-5 spéléos qui sont d'un très bon niveau. Et puis qui essayent de trouver d'autres collègues et puis qui les entraînent dans cette aventure, quoi. Mmh. Mais c'est vrai que c'est un petit groupe. Parce que bon, pour ma part, c'est plus pour moi. Donc il arrive un moment donné où il faut savoir dire non, c'est pas pour moi, physiquement je pourrais pas y arriver. Donc c'est vrai que c'est une équipe jeune, dynamique et voilà. Donc je pense qu'on finira bien par aller pousser un peu plus loin le terminus. Parce que le problème c'est ça, c'est que dans nos explorations, l'objectif, c'est de pousser plus loin le terminus. C'est terminé. Non, on dit jamais c'est terminé. On dit on n'a pas trouvé la suite. Bon, voilà, c'est ça l'intérêt.
Et là, ça pourrait aller encore plus loin, finalement. Oui, là, c'est un livre, on peut dire, presque intermédiaire.
C'est certainement un ouvrage intermédiaire. C'est évidemment un ouvrage intermédiaire. Il faut penser que les débuts des explorations, c'est 2002, ça fait 16 ans. Donc, il était temps quand même de synthétiser tout ça, parce que d'ailleurs, pour les spéléos eux-mêmes, ça permet d'avoir une vision plus globale du réseau et d'arriver à comprendre un petit peu où éventuellement trouver des suites probables. Mais il est évident qu'il y a encore du grain à moudre, tout simplement parce que les eaux qui circulent dans ce réseau, alors je vous rassure, c'est pas des torrents, mais bon, les eaux qui circulent dans ce réseau, elles sortent Arbois, Bourgnillon, donc le réseau Arbois-Bourgnillon, dans les gorges de la Bourne, à 22 km à vol d'oiseau. Donc, ce réseau fait partie du réseau du système hydrologique Arbois-Bournillon, qui comprend également la Luire. Donc, pour vous donner l'ampleur des résurgences d'Arbois et de Bournillon. Donc, si vous connaissez Bournillon, c'est une très belle balade qu'il faut faire. Il faut avoir l'occasion de la faire, voir ce porche d'entrée. Et c'est quand même une des résurgences les plus temporaires, mais des plus violentes du Vercors, puisqu'on a calculé des crues jusqu'à 60 mètres cubes seconde. Ouais. C'est énorme. 60 mètres cubes seconde, c'est catastrophique presque.
Mais on a du mal à imaginer Bournillon et puis Fondurle, qui est vraiment de quelques vallées, quelques reliefs plus loin.
Après, il y a le jeu des failles. Faut...
C'est ça.
Voilà, donc c'est ce qu'on explique un petit peu aussi dans l'ouvrage. Dans l'ouvrage, il y aura une partie du naturaliste. Donc on va parler un petit peu des couches que nous traversons, des couches calcaires que nous traversons, des couches imperméables que nous rencontrons, que nous arrivons à traverser, d'autres que nous n'arrivons pas à traverser. Et surtout, on va parler des failles. Bon, chacun sait que le Vercors s'est soulevé, il s'est ondulé d'est en ouest, donc anticlinal, synclinal, et il s'est faillé, donc il s'est fracturé. Tout ça dirige, oriente les circulations d'eau, tout ça oriente les galeries que nous explorons à l'heure actuelle. Et puis aussi, les fractures, parfois, elles nous bloquent, parce que... S'il y a un éboulis, on est arrêté sur éboulis. Actuellement, la plupart des galeries qui sont sur le nord, sauf la galerie des Dénuphars, dont je vous ai parlé précédemment, bloquent sur Trémies. Voilà, on est bloqué sur Trémies. Bon, c'est des grosses galeries, d'énormes galeries, mais bloquées sur Trémies. Donc il faut qu'on essaye de les franchir, mais ça c'est délicat.
Est-ce qu'il y a des personnalités autour de l'hydrographie, la géographie, la géomorphologie qui se sont aussi intéressées à vos explorations?
Alors, pour l'instant, nous, actuellement, on travaille avec des chercheurs. Donc Renaud, par exemple, pour le nommer, qui a beaucoup travaillé sur le Vercors. On a également...
Une autre personne aussi bien intéressée.
Qui s'intéresse au glacier. Et qui s'intéresse au glacier avec qui nous avons travaillé pour la glaciologie. Voilà.
Donc ça donne aussi... ça vous donne des éléments...
C'est-à-dire que si vous voulez, à partir du moment... Nous ne sommes que des amateurs. Donc nous sommes des amateurs, on recherche... On prend les thèses qui ont été écrites, et puis, au bout d'un moment, on commence à dire, tiens, on articule un principe, un système, et puis on finit par dire, tiens, on va peut-être contacter cette personne pour pouvoir valider nos remarques et nos recherches. Donc, aujourd'hui, l'élément essentiel, c'est que on a changé de raisonnement par rapport à nos études, c'est-à-dire que on a changé de couche géologique. Nous pensions être dans l'Urgonien supérieur, Urgonien inférieur, en couche, je parle en faciès, en couche géologique, enfin en couche, et maintenant nous sommes plutôt dans l'Urgonien inférieur et les calcaires bioclastiques. Donc c'est quelque chose... Bon, ça ne parle pas au commun des mortels, mais on repositionne l'ensemble, et surtout, ça va nous impliquer à raisonner différemment pour trouver les suites probables, parce que c'est toujours la même chose. L'objectif du spéléo, c'est d'essayer de comprendre l'articulation et savoir où trouver la suite et comment se sont formés ces réseaux. Ouais. On est certain d'une chose. C'est que le réseau que nous avons découvert jusqu'à présent, qui probablement va beaucoup plus loin, est un très vieux réseau, au-delà de 300 000 ans à peu près, aujourd'hui. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur nos recherches.
On vous intéresse donc à un nouveau milieu karstique.
À nouveau, un nouveau milieu, une nouvelle connaissance. Je ne sais pas si on pouvait... Enfin, on imaginait que à ces périodes-là, donc c'est quand même des périodes glaciaires qui sont très très loin, on pensait qu'il y avait ce genre de réseau. Mais il faut mettre le doigt dessus à un moment donné. Et aujourd'hui, ça y est, on peut dire que le réseau de Fondurle a plus de 300 000 ans, puisque la dernière glaciation dont on peut avoir la référence aujourd'hui, est celle-ci qui a 300 000 ans.
Alors pour aussi donner plus de compétences à vos recherches, est-ce que les nouvelles techniques maintenant en matière de repérage ou aussi simplement les techniques spéléo de matériel ont contribué à aller un petit peu plus loin ?
Alors oui, il est évident que d'abord on se déplace d'une façon plus rapide aujourd'hui sur corde, donc on a la technique même de progression a énormément évolué. Notre technique de relevé topographique, c'est-à-dire de relever des réseaux souterrains, a énormément évolué parce qu'aujourd'hui on utilisait des petits lasers, donc ça c'est, on a amélioré d'une façon incroyable la façon de faire nos relevés, donc on est plus précis. L'ensemble des entrées ont été repérées par les systèmes GPS à l'extérieur, hein, j'entends, par un système GPS précis qui nous positionne donc les entrées au millimètre près. Donc c'est très intéressant parce qu'on sait où exactement on se retrouve sur le terrain. Et bien sûr, l'aspect sur le terrain, on voit si on est sur une faille, dehors, enfin voilà. Donc c'est très intéressant. L'évolution des matériels légers pour nous permettre de gratter, d'ouvrir des passages, ça aussi c'est très intéressant, ça a bien évolué aussi. Et puis surtout, je dirais que l'intérêt, enfin la dernière évolution en matière spéléo, c'est la protection du milieu. C'est-à-dire que maintenant et aujourd'hui, dès qu'on découvre une galerie et que cette galerie est un caractère intéressant en matière de concrétionnement, ou même parfois on y trouve des argiles en forme de carreaux de chocolat, ce qu'on appelle les carreaux de chocolat, la première chose que l'on fait, après l'exploration bien souvent, c'est la protection. C'est-à-dire, on fait une trace et on demande à tous les spéléos, on balise cette trace par un petit fil discret, et on demande aux spéléos de se déplacer que dans cette trace. Si bien que ça permet toujours, sur des galeries qui font 10 mètres de large, par exemple, de conserver, on n'a besoin que de 30 cm hein, pour se déplacer à la queue leu leu, de conserver quand même ce caractère vierge de la cavité, et c'est quand même très agréable. Ça, c'est à mon avis la plus belle progression en matière spéléologique. D'accord. C'est dans le milieu de l'environnement et de la protection du milieu.
Parce qu'il y a un aspect de protection aussi biologique, hors côté esthétique, est-ce qu'il y a un peu de la microfaune qui est...
Alors, il y a probablement de la microfaune, donc nous, on n'a pas de biospéléologue dans notre groupe. Il y a probablement de la microfaune. On a vu quelques insectes, quelques cavernicoles. Bon, ça, on en a vu quelques-uns. Mais on ne sait pas. Donc, protéger le milieu, c'est s'assurer un avenir. Ne pas le protéger, voilà, c'est détruire peut-être des connaissances. Donc voilà, je crois que ça en fait partie. Et on a pris conscience aujourd'hui dans le milieu spéléo qu'il fallait protéger quand même, garantir un peu ce côté vierge de ce que des découvertes que nous effectuons.
Ça a été par ailleurs le réflexe aussi des découvreurs de la grotte Chauvet. Hein,
Tout de suite. Et aujourd'hui, on va faire la grotte Chauvet. Aujourd'hui, elle est toujours protégée. Le sol de la grotte Chauvet est toujours protégé. C'est-à-dire qu'il y a des passerelles et au grand dam d'ailleurs des gens qui voudraient voir les peintures qui sont derrière le pilier, puisque il a fallu des caméras pour aller voir ce fameux personnage, c'est bison, moitié taureau. C'est vrai qu'il faut protéger le sol, parce que on ne sait pas ce que va devenir. De nouvelles sciences vont arriver, de nouvelles compétences, et il faut impérativement qu'on ait raison gardée et qu'à un moment donné, on préserve un peu notre milieu. Je crois qu'on est vraiment très tendance. Hein.
Bon, donc les carreaux de chocolat sont intacts.
Les carreaux de chocolat sont intacts et on est tous très ravis parce que, d'abord, ça fait partie de quelque chose. C'est assez majestueux de voir ces carreaux de chocolat, de la boue s'est rétractée, séchée, rétractée, elle a créé sur 20 mètres de long, 5 mètres de large, une énorme tablette de chocolat. Alors, on l'appelle comme ça parce que ça fait penser à ça. Mais c'est vrai que le fait d'avoir mis un petit sentier balisé, aujourd'hui, chaque spéléo qui arrive a quand même le plaisir de découvrir ça. Alors qu'en réalité, vu le nombre de passages, les découvertes auraient fait que ces carreaux auraient été complètement détruits. Donc ça, c'est pas... On peut plus travailler comme ça. Faut plus travailler comme ça. Thank you.
Est-ce que vous avez eu des surprises, François Landry, en découvrant certaines salles et des concrétionnements qui vous ont étonné? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de concrétions sur ces parcours?
Alors, le réseau, et c'est intéressant parce qu'il est tellement varié au niveau concrétionnement. Je pense qu'au niveau concrétionnement, on a pratiquement tout ce qui peut se faire, tout ce qu'on connaît. On a du gypse, on a de l'aragonite, on a des concrétions classiques stalactites, stalagmites, on a les fameuses fistuleuses que vous pouvez aller voir à Chorange, dans les grottes de Chorange. Ben, on les trouve dans ce réseau, on les trouve au collecteur de Quin, donc c'est dans le collecteur qui rejoint la falaise de Quin, on les trouve à la chapelle Sixtine, on l'appelait la chapelle Sixtine. Pourquoi ? Ils sont fous, ces spéléos. Ben non, tout simplement, on monte sur cette salle qui est une salle qui fait 20 mètres par 20 mètres. On arrive à monter un petit peu en hauteur, on éclaire le plafond et nous avons une pluie figée. C'est fistuleuse, elle recouvre totalement les 400 mètres carrés du plafond et on a une pluie figée. Ça, c'est voilà, donc on couvre toute la palette des concrétions. Et chacun y trouvera le sien. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que on s'est bien rendu compte qu'on découvrait des choses qui sont fragiles, qui sont à protéger et en même temps qui sont exceptionnelles. Donc, le balisage, je reviens là, le balisage, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de passer le flambeau aux générations futures. Je crois que c'est ça qui est important.
Et aussi les volumes de salles hein, qui sont importants. On voit quelques photos, des photos sans...
Alors ça, c'est difficile.
Photographier des volumes pareils.
Mais on a quand même réussi la chapelle Sixtine. Nous avons réussi à quand même la photographier. C'est un collègue américain d'ailleurs qui a fait la photo. Là, je l'ai accompagné d'ailleurs pour faire cette photographie. Donc, il sera publié dans l'ouvrage. Donc, il faudra acheter l'ouvrage pour la découvrir. Oui, c'est très difficile parce que ça demande beaucoup d'éclairage. Hein. On est quand même dans le noir absolu. Ouais. Mais on arrive. Il y a de très belles photographies. Je pense que on a privilégié les photos les plus marquantes pour que le lecteur puisse quand même voir un petit peu au fur et à mesure du descriptif ou du récit d'aventure, parce que c'est un peu un récit d'aventure, d'exploration, puisse voir un petit peu ce que découvre le spéléologue, quoi. C'est quand même l'objectif. Donc il doit y avoir à peu près plus de 300 photos qui agrémentent l'ouvrage. Je pense que là, on aura une bonne idée de ce qu'il y a sous fond d'urne.
Parmi tous les topos présentés, est-ce que ça s'adresse à des spéléos chevronnés, les topos que vous présentez?
Alors, oui. Donc, les 12 topos s'adressent systématiquement à des spéléologues qui maîtrisent les techniques sur corde. Parce que l'inconvénient, on n'a pas... Enfin, l'inconvénient, peu importe, pas a priori. Nous n'avons pas d'accès hors puits. Tous les accès se font en descendant des puits.
Donc technique de rappel,
technique etc. de rappel, technique de descente sur corde et remontée sur corde. Même si les courses, on a des courses qui sont, je dirais, faciles pour un initié. On a des courses difficiles, on a des courses très difficiles, on a des courses faciles pour un initié, mais elles nécessitent quand même une technique, une maîtrise de la technique de progression sur corde. C'est tout. C'est la seule chose qu'on demande, mais bon, voilà. Donc, on n'a pas de cavité d'entrée qui nous permette aux randonneurs pédestres d'entrer un petit peu et de découvrir la cavité. Malheureusement, non. Tout commence et débute par un puits, bien souvent. Voilà.
François Landry, avant d'aborder le réseau des Chua, si pour certains souhaiteraient aller plus loin en matière de spéléologie, qu'est-ce que vous conseilleriez pour quelqu'un qui n'est pas véritablement un spéléo en herbe ?
Moi, ce que je conseille déjà, c'est de prendre contact avec le comité départemental de spéléo. Il y a de nombreux clubs. Tous ces clubs, généralement, organisent des sorties découverte du milieu, c'est le cas du GECOS, pour parler de mon club à Saint-Laurent-en-Royans, on organise régulièrement des sorties découvertes. Généralement, on le fait en famille, c'est-à-dire que c'est les parents, les enfants pour découvrir les cavités, donc on les accompagne, on leur fournit le matériel. Je pense que tous les clubs le font au niveau du département. Ensuite, vous avez les journées nationales de la spéléologie qui ont lieu tous les week-ends les premiers week-ends du mois d'octobre. Donc ça, c'est au niveau national. Donc là, il y a la spéléo et même le canyon, d'ailleurs. Il y a un club qui organise des sorties canyon. Donc ça, c'est au niveau national. Ensuite, vous pouvez prendre contact avec les BE, les brevets d'État, enfin, ce qu'on appelle des brevets d'État, qui sont des professionnels de la spéléo. Il y en a, on les trouve à l'office de tourisme de Saint-Jean, où vous avez des guides qui sont présentés. Il faut prendre contact avec ces gens. Et puis, ils vous amèneront à la découverte du milieu. Je ne conseille pas d'entrer sous terre sans avoir un minimum de connaissances. Parce que c'est un milieu qui, très rapidement, peut devenir piège. Ne serait-ce que pas avoir le bon éclairage approprié. Voilà. Tout simplement, moi, j'ai des souvenirs de gens que nous avons été chercher, des gens qui faisaient... Je ne pense pas qu'il y avait d'arrière-pensée, mais ils n'avaient pas le bon éclairage approprié et se sont trouvés sans éclairage. Et quand on se retrouve sans éclairage sous terre,
ça vient,
c'est la catastrophe.
Ouais, ouais.
Parce qu'on ne peut pas, on n'est pas dans la pénombre. Il n'y a pas de pénombre. Ouais. Quand on est relativement loin, enfin relativement loin, assez rapidement d'ailleurs, on passe dans le noir absolu.
Ouais, ouais, ouais.
Et là, il n'y a pas moyen de se déplacer. Donc si on a un éclairage qui n'est pas suffisant, c'est tout de suite catastrophique.
Et oui, puis en milieu souterrain, les sauvetages sont plutôt compliqués, on le sait bien.
Oui, alors là, ce sera très rapide. Il y a un bon éclairage, les spéléos arrivent, ils vous trouvent, vous criez, ouais, c'est bon, allez, tout le monde dehors, très bien, allez, on sort, ça va. Bon.
Mais une fracture.
Mais dès que, voilà, donc, dès qu'il y a... Après, le problème, c'est, pour moi, hein, pour le randonneur, la plus grosse difficulté, c'est son éclairage.
Ouais.
Après, c'est vrai qu'on va pas s'aventurer dans un puits, si on n'a pas le matériel, parce que là, ça devient vite... ça devient vite catastrophique.
Pour se donner une bonne idée de ce que vous avez pu réaliser avec le club Les Gécos, vous-même, le comité départemental de la spéléologie, c'est la bibliothèque de Saint-Laurent-en-Royan qui a un bon support pour découvrir tout ce fond du milieu souterrain.
Oui, au sein du GECOS, nous avions une bibliothèque, comme tous les clubs spéléo, et se posait le problème de la gestion de cette bibliothèque. Ces ouvrages, donc, on aurait pu les laisser sur une étagère à la disposition de temps en temps d'un de nos membres. Et le comité directeur du club a décidé plutôt de prendre un partenariat avec la bibliothèque de Saint-Laurent-en-Royan et de déposer notre fonds d'ouvrages à la bibliothèque de Saint-Laurent-en-Royan. On achète régulièrement des ouvrages qui sont présentés donc du coup à la bibliothèque de Saint-Laurent-en-Royan. Donc quand la bibliothèque de Saint-Laurent-en-Royan a su que je travaillais avec une équipe sur cet ouvrage du réseau des Chua à Fondurne, bien sûr avec plaisir on a fait cette présentation.
Il y a quelque temps,
déjà
à Saint-Laurent-en-Royan dans la bibliothèque.
Ça va vite.
Sa parution, c'est prévu quand ?
Alors donc l'apparition de cet ouvrage, c'est au mois de mai, début mai, qui sera prévu pour le congrès régional, puisque le comité départemental de spéléo organise le congrès régional à Vassieux. Donc l'apparition est prévue pour cette date, donc au congrès régional de Vassieux, début mai.
Il y a un système donc de souscription.
Alors, on met en place donc sur le site internet du CDS. Faut taper CDS 26 spéléo ou spéléo CDS 26 sur le site internet. Je pense que ça va se faire d'ici 8 à 10 jours. Hein, vous êtes rapide à Radio Royan, nous on n'est pas si rapide. D'ici 8 à 10 jours, il y aura la possibilité d'un préachat, donc une prévente. On va mettre une prévente, on présente l'ouvrage et vous pourrez à ce moment-là acquérir l'ouvrage qui coûtera 29 euros. Voilà, on peut déjà donner le prix, 29 euros, ouvrage de 400 pages environ.
Ouais. Avec de nombreuses photos.
Avec de nombreuses photos, oui.
Et tous les topos qui sont associés et aussi parler peut-être de la maison d'édition. Qu'est-ce qui est, c'est une auto-édition du CDS 26?
Là, on est actuellement dans le choix de l'impression, mais c'est vraiment le comité départemental de Spéléo qui édite cet ouvrage. Voilà.
À retrouver ensuite, naturellement à Saint-Laurent, mais beaucoup plus largement.
Plus largement, je pense que oui, bien sûr, on le trouvera dans
l'office de tourisme,
voilà. Et puis, on va prendre notre petit bâton de pèlerin et on vous présentera. De toute façon, je crois qu'il faut, il y a un peu de passion derrière cet ouvrage aussi, donc. Il y aura certainement des conférences pour le présenter et en même temps pour présenter le réseau. Parce que c'est quand même... Je crois que le réseau des CHUA aujourd'hui, c'est exceptionnel. Je ne l'ai pas dit, mais c'est quand même le troisième réseau du Vercors. Aujourd'hui, c'est le 13e réseau de France. Et nous sommes dans les 100 premiers réseaux mondiaux, à savoir nous avons la place de 88e.
Donc, en matière de longueur, c'est
en matière de développement.
Développement.
Donc, c'est anecdotique, mais on espère bien gagner quelques places. Nous sommes déjà sur le podium en ce qui concerne le Vercors.
Bon, en tout cas, c'est un point d'orgue pour la passion, votre passion personnelle, après tout le temps et l'énergie que vous avez mis.
Oui, c'est un point d'orgue. Et puis surtout, c'est quand même une équipe. Bon, actuellement, il doit y avoir entre 70 et 80 personnes, plus ou moins, qui ont participé à cette exploration. Alors, plus ou moins d'une façon assidue. Mais voilà, c'est quand même un bon résultat pour l'ensemble des spéléos qui ont œuvré à la découverte de ce réseau.
Merci beaucoup François Landry pour la présentation de cet ouvrage du réseau des CHUA sur fond d'Urle, vaste réseau souterrain à découvrir de manière concrète en mai. Pour l'instant, on peut s'inscrire et l'acheter au préalable, se le réserver en tout cas.
Voilà.
Merci, à très bientôt.
Merci vous.